Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Women of the Seas. Récits d'aventure en mer, portraits de femmes au destin incroyable.
On se souciait pas du tout des ours, et puis des fois, on voyait une trace pas loin du camp, et là on se dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, on n'est pas tout seul, quoi. Quand je disais à ma maman que les toilettes étaient sur la banquise et qu'il fallait sortir avec le fusil, des fois le chien, parce que voilà, parce qu'il peut toujours y avoir un ours qui traîne par là. Et ma mère, elle voulait qu'on attache le toilette au bateau.
Marion Lauters, 36 ans, étudiante et intendante. Prisonnière volontaire de la banquise lors de la dérive de la goélette scientifique Tara au pôle Nord.
J'ai pris une année sabbatique entre ma licence de biologie des organismes et un master en environnement écologie. Donc j'habitais à Paris et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de voyager, j'avais envie de nature. Et je suis partie en Bolivie avec une amie. En voyage sac à dos pendant 2 mois. Pendant cette année sabbatique, j'ai pu rejoindre l'expédition de Jean-Louis Etienne sur Clipperton. L'idée de cette expédition, c'était d'aller faire un inventaire de la faune et de la flore sur cet atoll français perdu au milieu du Pacifique. Et moi, je me suis occupée avec d'autres membres de l'équipe de ramasser les déchets sur la plage. Ça a beau être un atoll isolé de plus de 3 jours de mer des côtes du Mexique, c'est gavé de plastique en tout genre, de brosses à dents, de machines à laver, de choses qui viennent des continents, des bateaux, un peu partout. Et je pense que c'est d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles après je me suis inscrite en master environnement écologie, c'est parce que j'ai été beaucoup marquée par cette quantité de déchets qui arrivaient par les mers et j'avais envie d'avoir une action dans ce domaine-là. Puis il y avait tout ce contact avec les scientifiques de différents horizons. Et c'était bien, bien enrichissant. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis inscrite au master en environnement et écologie. Mais vu que Tara, en fait, c'est l'ancien Antarctica de Jean-Louis Etienne, j'ai eu l'occasion, quand je suis rentrée de cette année sabbatique, d'aller découvrir le bateau Tara. Tara, c'est un bateau d'expédition scientifique en aluminium, parce que c'est un matériau très résistant. Il a été construit pour être en Arctique, il peut résister à la pression de la glace. Donc c'est une goélette, c'est-à-dire que c'est un bateau à deux mâts, et les deux mâts sont égaux. Donc le bateau fait 36 mètres de long, et j'ai beaucoup aimé ce bateau. Il était très impressionnant par son volume, par les destinations qu'il allait explorer, et j'avais envie de continuer l'aventure. Donc, j'ai essayé d'embarquer une première fois en tant que cuisinière sur le bateau. Et puis, ça n'a pas pu fonctionner. Ils avaient déjà quelqu'un d'autre. Donc j'étais un peu obligée de retourner aux études. J'étais contente d'aller jusqu'au master. Après, il y avait le convoyage du bateau Tara pour la mission arctique sur l'été, donc qui se trouvait entre mon master 1 et mon master 2. Et là, j'ai essayé d'embarquer sur la goélette et j'ai été prise comme cuisinière sur le début de l'expédition pour amener le bateau jusqu'en Sibérie. Et on va dire que c'est vraiment là le début de l'aventure pour moi sur Tara. J'ai commencé à rencontrer tous les marins, à vivre cette aventure de voyage et de rencontre avec les scientifiques, avec ce monde de l'expédition un peu extrême. Et donc le bateau partait en Arctique et c'était un peu fou d'aller jusqu'en Sibérie, mais pas de pouvoir monter jusqu'au pôle Nord, quoi. Je voyais les marins avec qui je venais de passer un mois et demi sur le bateau, qui eux allaient commencer l'hivernage. Donc c'est vrai que c'était un petit peu fou, un petit peu irréel, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit, ah là là, mais où ils vont, quoi. C'était tellement inconnu. Il y en a qui ont toujours rêvé d'aller en Arctique, toujours rêvé des milieux polaires. Moi, pas spécialement, quoi. Moi, il y a le côté, c'est plutôt le côté aventure humaine, exploration, mais peu importe l'endroit, en fait. Donc l'Arctique, pourquoi pas, quoi. Ça me paraissait un petit peu fou d'aller se faire prendre dans les glaces en Arctique, mais sans vraiment réaliser qu'est-ce que ça signifie, en fait. Donc nous, on a quitté le bateau en Sibérie et eux, ils prenaient la mer pour le pôle Nord. Et après, l'idée, c'était quand même de trouver le moyen de rejoindre l'aventure, même si j'avais un peu de mal à réaliser qu'est-ce que ça allait être. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer la personne qui s'occupait du dispositif éducatif de Tara et qui cherchait et qui m'a rencontrée. Je lui ai dit que moi, je faisais un master en environnement et écologie. Et elle m'a dit, mais attends, tu pourrais faire ton stage en Arctique. On pourrait faire un diagnostic environnemental de la mission. Ensuite, on pourrait en décliner des activités pour les élèves. Comme ça, on aurait des élèves de plusieurs niveaux qui pourraient suivre l'expédition. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Et on a commencé à monter le projet, on a rencontré des gens de l'ADEME pour voir si ça pouvait les intéresser de nous suivre dans l'idée de faire un bilan carbone de la mission, voir avec aussi des enseignants pour que, à partir des données techniques que j'apporte du bateau, à savoir comment on gère l'eau à bord, comment on gère l'énergie à bord, les déchets, comment eux, ils peuvent en décliner des activités pédagogiques pour les enfants. Et petit à petit, le projet s'est monté. J'ai fini mon année scolaire, je crois que c'était en janvier. Et puis, j'ai dû faire un mois de stage dans les bureaux de Tara à Paris. Et puis après, c'était le départ pour les Spitzberg. Donc en fait, vu que le bateau était pris dans les glaces en Arctique, on faisait les rotations d'équipage à la fin du premier hiver. Donc il faut aller attendre que le soleil arrive, parce qu'on peut pas atterrir de nuit en Arctique, et il fallait aussi que toutes les rotations aient lieu avant que la glace soit trop instable, parce qu'avec le soleil, donc la banquise après commence à se dégrader et elle peut plus permettre à des avions de se poser. Les rotations, je crois, se sont faites au mois de mars. Donc moi, je suis arrivée au Spitsbergen, donc c'est une île au large de la Norvège, et c'est de là que se faisaient les rotations. Et donc, ça a été un petit peu long au niveau de la possibilité d'aller sur la banquise, parce que donc faut imaginer la banquise, c'est une mer gelée. Donc, c'est de la glace qui fait on va dire en moyenne 1 à 2 mètres d'épaisseur. Mais c'est pas complètement plat. Il y a ce qu'on appelle des crêtes de compression, parce que la glace bouge et rentre en compression des morceaux de glace les uns contre les autres, et ça fait des crêtes de compression qui peuvent monter à plusieurs mètres de haut, hein, 4 mètres, 3-4 mètres. Et donc il faut trouver un endroit sur cette mer gelée, à peu près plat, où des avions équipés de skis peuvent se poser. À un moment donné, ils ont réussi à faire une piste d'atterrissage et le premier avion a pu partir. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans ce premier avion qui est arrivé sur la banquise. J'avais une double casquette pour cet embarquement. Donc j'avais mon stage de master, mais quand il y a si peu de monde sur un bateau, donc on était 10, nous, après, pendant le premier été et jusqu'à la fin de la mission, on ne peut pas juste dire « je viens faire mon stage de master sur la banquise ». Il faut être un peu multitâche, quand on dit couteau suisse. Donc moi, ma deuxième casquette principale, c'était la gestion de l'intendance. L'idée, c'était pas que je fasse la cuisine pour tout le monde tout le temps, c'était que j'assure un peu l'organisation générale de l'intendance et la moitié des repas. Après, chacun faisait un petit peu des repas aussi. Là, je crois que c'est un petit peu là que j'ai pris conscience de où j'allais. Donc, parce qu'on était dans l'avion, et puis au bout de, je ne sais plus combien de temps a duré ce vol, mais quelques heures, hein, au moins 2-3 heures, je pense. Au bout d'un moment, ils ont dit, le bateau est là. Et là, on a vu Tara, les deux petits mâts avec les pointes oranges au bout, pris dans la glace complètement, et au milieu d'une étendue de blanc. Et là, je me suis dit, c'est là que je vais passer mes prochains mois. Oh là là, je réalisais, mais pas complètement, je crois quand même. Mais c'est peut-être mieux comme ça, hein, parce que moi, il n'y avait pas d'appréhension. Donc, on s'est posé sur la banquise, on a retrouvé l'équipage que j'avais laissé en Sibérie 6 mois auparavant. Et puis l'aventure commençait. Un peu fou de se dire quand on descend déjà que l'avion il se pose sur la glace quoi, et puis après de marcher, de se dire en dessous de nos pieds il y a 4000 mètres de fond quoi. Tara, c'est un bateau d'expédition polaire qui a été conçu pour ce projet. Donc le bateau a une forme particulière qu'on dit d'olive sous la coque. Ses dérives et ses safrans peuvent se soulever et donc il peut résister à la pression de la glace et monter sur la glace. Parce qu'au pôle Nord, en fait, il y a différents courants marins et il y a un courant qu'on appelle transarctique qui va partir un peu au niveau de la Sibérie, qui va monter jusqu'au pôle et qui va emmener l'eau entre le Groenland et les Spitzbergs. Et ce courant... mais plusieurs années pour emmener la glace de l'autre côté. En fait, nous, avec Tara, on a fait une mission qui avait déjà été faite par un autre bateau, le Fram, avec l'explorateur Nansen. Et eux, ils avaient mis 3 ans pour dériver, donc se faire prendre dans les glaces à peu près au même niveau que Tara a été pris. Et ensuite, suivre un peu comme sur un tapis roulant, subir plutôt les mouvements de la glace, des courants pendant 3 ans où ils sont sortis entre le Groenland et Spitzberg. Et donc l'idée de Tara, c'était de reproduire cette dérive, donc de se faire prendre dans les glaces et ensuite d'attendre que les courants l'emmènent de l'autre côté. Donc on ne savait pas combien de temps ça allait nous prendre. Le bateau, le Fram, ils avaient mis 3 ans, nous on a mis 500 jours. Donc l'idée de se faire prendre dans les glaces, c'était de permettre aux scientifiques de faire des mesures pour mieux comprendre les interactions entre l'atmosphère, la glace et l'eau dans le cadre de l'année polaire internationale. Donc il y avait un programme scientifique qui s'appelait le programme Damoclès et c'était étudier les conséquences du changement climatique sur l'Arctique et mieux comprendre les phénomènes qui se passent là-haut parce que donc il y a quelques missions ponctuelles qui peuvent se faire en Arctique, mais c'est juste pendant des courtes périodes, pendant l'été principalement, même j'ai envie de dire plus au moment du printemps, quand la banquise est encore assez compacte et solide pour pouvoir accueillir des camps dérivants. Sinon, il y a aussi des missions en brise-glace, mais là, voilà, c'est assez intrusif déjà pour l'Arctique. mais c'est assez rapide aussi parce que c'est des missions qui coûtent extrêmement cher. Puis il y a les études via les satellites. Donc là, l'idée de Tara, c'était d'être une base dérivante. Il y avait quelques scientifiques à bord pendant toute la dérive, mais ils ont aussi beaucoup de travail à faire dans leur laboratoire. Et sur place, on avait aussi besoin de marins, de mécaniciens, de cuisiniers. Donc c'était nous, les marins, qui faisions une grande partie des mesures scientifiques. Donc on avait chacun nos maniques à faire nos expériences. Il y en a pour qui c'était l'étude de la glace, de la neige. Il y avait aussi un ballon gonflé à l'hélium qui permettait d'emmener des capteurs à plusieurs mètres d'altitude. On avait des sondes. En gros, l'idée, c'était d'étudier les interactions entre 2000 mètres d'altitude et 4000 mètres de fond. J'étais responsable des prélèvements de plancton. Voilà, pour le centre océanologique de Marseille. Donc, on avait des petits filets et on prélevait de l'eau. Et après, on mettait dans des petites fioles avec du formol, de l'alcool.
Notre bateau est désormais bien encastré dans les glaces. Il dérive à la vitesse moyenne de 9 km par jour. Nous venons d'atteindre 82 degrés en latitude.
On fait 82 degrés nord. On dérive beaucoup plus vite que Nansen.
Tara est sur les traces de Nansen. L'aventurier norvégien en 1893, à bord du Fram, prend la mer pour l'extraordinaire dérive qui l'a rendu célèbre. Il parcourt plus de 2000 km avec ses 12 hommes d'équipage. Après 3 ans d'absence, tout le monde les croit morts. C'est alors qu'ils réapparaissent près du Groenland. 115 ans après la longue dérive du Fram, nous accomplissons le même périple, prisonniers de la même banquise.
On était 10 à partir de l'été parce qu'en fait, on s'est rendu compte que 8 personnes à bord, ce n'était pas suffisant par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait le capitaine du bateau parce que même si le bateau n'est plus motorisé, on n'a vraiment plus besoin d'allumer les moteurs pour avancer, mais on reste au milieu d'un océan et on a la responsabilité. Il nous faut un capitaine pour la responsabilité du bateau. Il y avait 2 mécaniciens, 1 chef d'expédition. Il y avait un scientifique qui était responsable des mesures atmosphériques. Il y avait un ingénieur un peu géotrouve-tout pour régler tous les appareils qui étaient posés sur la banquise autour de nous. Et il y avait beaucoup de données informatiques à traiter et autres. On avait un médecin. On avait un marin polyvalent sur le bateau, un artiste, puis moi qui faisais mon stage et qui en même temps gérait une partie de l'intendance. À la fin du premier hiver, il y a eu les premières rotations en avion pour faire une relève d'équipage, mais aussi il y avait l'idée de faire une campagne d'été sur la banquise. Donc il y a eu une trentaine de scientifiques qui se sont relayés pendant un mois. Le bateau et ses alentours se sont vraiment transformés en camp d'études scientifiques. Il y avait des gens qui dormaient sous tente, chacun est venu avec ses appareils de mesure. Certains en ont profité pour former les marins sur certaines manips. J'aurais voulu être encore un petit oiseau et pouvoir prendre de l'altitude et voir toute cette petite fourmilière sur quelques kilomètres carrés de l'étendue blanche qui est l'Arctique. Ça a duré un mois et puis après les scientifiques sont partis et nous ont confié le matériel et les expériences à réaliser pour eux sur la banquise. Et c'était marrant de voir l'évolution du camp à travers les saisons, quoi. La banquise, elle n'est pas tout le temps blanche, quoi. Pendant l'été, il y a des lacs de fonte qui se forment. Et du coup, ça fait des petites piscines bleues turquoises tout autour. On a même eu l'occasion de se baigner dans un de ces lacs de fonte. Donc, elle est bien gelée, l'eau. Mais après une petite journée de ski, d'exploration sur la banquise, c'est tentant. Et puis, je pense que c'est aussi tentant parce qu'on se dit quand même, on est au pôle Nord, quoi. Donc, je me baigne au pôle Nord. le côté un peu fou fait que ça motive un peu à rentrer dans l'eau, même si elle est gelée. Quoi. Moi, quand je suis arrivée sur la banquise, c'était déjà lourd permanent. Quand on est au pôle Nord, il y a une grande partie de l'année où il fait le jour permanent, et puis en hiver, c'est la nuit permanente. Et puis il y a les intersaisons où on a un peu des deux, où on a le soleil rasant sur l'horizon, où on vit un lever de soleil permanent. En fait, toute la journée, on a l'impression que le soleil va se lever, mais en fait, il reste rasant. C'est une atmosphère assez particulière. Et puis pareil, on peut aussi faire penser dans l'autre sens, à un coucher de soleil permanent. L'été, c'est assez stimulant d'avoir le soleil toute la journée presque au zénith. Quand on parle jour-nuit, c'est pas forcément qu'il fait jour et qu'il fait nuit, c'est plus par rapport aux horaires. Vu qu'on a la nuit permanente et une autre partie de l'année, le jour permanent, il est très important d'avoir un rythme qui est lié à des horaires où là on dit, voilà, c'est le matin, il est 8 heures, on se réveille, le déjeuner il est à midi, le dîner il est à 19 heures et après à 22 heures on va se coucher et voilà, qu'il fasse jour ou nuit. On garde un rythme au niveau des horaires. Pendant cette dérive, on continue à faire des quarts, on continue à faire des quarts de nuit. Donc, en plein été, il fait plein jour pendant nos quarts de nuit. Et donc, on se réveille à 2h du matin, on sort, on dit « je prends mon quart » et là, on a l'impression qu'il est midi. Donc, c'est pas mal parce qu'au moins, on est réveillé direct parce qu'on est nourri par le soleil. À l'inverse, quand on est pendant la nuit polaire, le matin, on se réveille. Si on est un peu fatigué, on se réveille, il est 8h du matin, on sort dehors, les étoiles. Et puis, on ressort à l'heure du déjeuner, il y a toujours les étoiles. Et donc, si on est un peu fatigué le matin, en fait, avec cette sorte de nuit polaire, c'est pas évident de se réveiller. C'est là où on prend la conscience de l'énergie qu'apporte le soleil. Chacun partait un petit peu dans ses activités. Donc, une fois par semaine, moi, j'avais les prélèvements d'eau pour les prélèvements de plancton. Donc, à l'arrière du bateau, il faut imaginer qu'il fallait qu'on garde toujours un accès à l'eau. Donc, tous les jours, il fallait entretenir le trou de glace, en fait, pour pouvoir envoyer les appareils de mesure. Après, il y avait une autre équipe qui partait étudier les épaisseurs de glace. Il y avait plusieurs activités aussi pour que le camp puisse fonctionner. Il fallait gérer nos déchets. C'était une équipe qui faisait ça. Donc, il y avait compressé les déchets plastiques pour qu'on les stocke à bord. Il y avait brûlé tout ce qui était papier. Il y avait mettre à la mer tout ce qui était déchets organiques. Et cette équipe-là s'occupait aussi de l'entretien du bateau. Donc, que ça reste vivable. Pendant toute la mission, aspirateur, nettoyage. Il y avait une autre équipe qui s'occupait de l'eau. L'eau à boire, on l'a récupérée de la neige ou de lacs de fonte. Parce qu'il faut imaginer que donc, la banquise, c'est une mer, c'est de la glace gelée salée. Mais le haut de la banquise est doux et le bas de la banquise qui est en contact avec la mer est salé. La banquise, elle se forme principalement par de la mer gelée, donc qui vient s'accumuler sous la banquise. Mais avec le temps, le sel descend tranquillement à travers la banquise. Donc le dessus de la banquise est doux et de l'eau douce. Donc en été, quand la banquise fond, ça fait des lacs de fonte et là, on peut récupérer directement cette eau qui est potable. Pour se laver, on faisait fondre des gros morceaux de glace. Après, on avait une autre équipe qui était pour avec moi en cuisine pour faire les repas. Après, on avait aussi des journées qui plutôt en hiver, ça. Il y avait des grosses tempêtes de neige, donc il fallait déneiger le bateau et le tour du bateau pour pas que le bateau se fasse engloutir, on va dire, par la banquise. Qu'on ait trop de poids sur le bateau, donc il fallait déneiger tout le bateau et tout le tour du bateau. Donc ça, je me souviens de quelques tendinites au poignet qui me touchent encore aujourd'hui. Quoi. Si je fais un, mouvement trop répété avec la poignée, si j'utilise de nouveau une pelle ou tout ça, je ressens la douleur encore de l'arctique. On avait un Norvégien et un Estonien qui parlaient pas français, mais qui ont parlé en anglais. Mais des mots qu'ils ont appris, c'est de pic de pelle, de pic de pelle. Et c'est le pic à glace, la pelle pour ramasser. Le chef d'expédition Grand Traverse, il était attentif à rythmer aussi la semaine pour qu'on puisse différencier les jours les uns des autres. Par exemple, le mardi soir et le jeudi soir, on avait à bord un sauna. En fait, pendant le premier hivernage, il y avait un Russe qui était embarqué et dans toutes les missions russes, il y a des saunas. Et c'est culturel en Arctique, en Sibérie, qu'on aille se détendre dans le sauna après une journée à travailler dans le froid. Au début, le Russe, il voulait construire le sauna dans une des cabines du bateau. Et là, tout le monde a dit, mais t'es complètement fou, on va pas utiliser une cabine du bateau pour un sauna, qu'est-ce qu'on va faire dans un sauna, tout ça. Donc lui, il a rien dit, il a embarqué son chauffage électrique et ses pierres volcaniques. Et pendant le premier hiver, petit à petit, il a commencé à construire son sauna sur le pont du bateau dans des structures métalliques qui étaient au départ prévues pour des bouteilles de gaz. Et donc, il a utilisé l'isolant, le bois qu'il y avait sur le bateau. Parce que quand on part en mission comme ça, on embarque beaucoup de matériel. On ne sait pas à quoi ça va nous servir, mais ça va nous servir. Et donc, les marins commençaient à avoir d'un mauvais œil que le Russe commence à utiliser tout ce matériel pour construire un sauna. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas un membre de l'équipage qui a participé à la mission Tara Arctique qui regrette ce sauna, enfin qui regrette que cette personne ait construit le sauna, parce que c'était vraiment un réel plaisir de détente. Donc tous les mardis soirs et les jeudis soirs, on avait soirée un petit peu libre. Où on passait une bonne partie de la soirée dans le sauna. Après, on allait soit se prendre un seau d'eau de mer pour se rafraîchir, soit pour certains s'immerger dans le trou de glace qu'on entretenait à l'arrière du bateau pour faire ce choc de température entre le chaud et le froid. Et puis le dimanche, c'était une journée libre où chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Pendant l'été, on pouvait aller faire un petit ski autour du bateau. Voilà, c'était des journées détente. Et en plus de ça, on a fêté toutes les fêtes nationales, donc fêtes norvégiennes, estoniennes, françaises. Et on est parti camper, donc on est parti en week-end sur la banquise. Donc on n'est pas parti très loin, on a dû partir, je ne sais pas, moi, peut-être à 7 km du bateau, mais c'est déjà impressionnant. Et puis de se dire, on dort sur la banquise, et là, on n'est pas protégé par le bateau, quoi. La banquise, à tout moment, elle peut craquer sous la tente, quoi. Et là, on se retrouve... On se retrouve dans l'eau. Et puis on est plus vulnérable, même si on avait les chiens, on est quand même plus vulnérable aux ours, tout ça. Mais c'était une super expérience que de partir comme ça, un peu à l'aventure quand même. Après, il y avait aussi pas mal de temps que je passais pour mon stage, en fait. Parce que la vie du bord prenait du temps, l'organisation, tout ça, donc j'ai quand même un rapport à écrire et donc ça me prenait beaucoup de temps. On a vu quelques oiseaux en Arctique et là on se dit, mais il est perdu ce petit oiseau. Il ne chante pas autant que ce qu'on peut entendre derrière là. Alors on a vu quelques trous de phoques. C'est plutôt les chiens d'ailleurs. On avait deux chiens sur la banquise avec nous pour nous prévenir des ours polaires. Donc eux, ils trouvaient les trous de phoques. Donc quand on s'approche de la glace, on voit qu'il y a un petit renfoncement dans la banquise avec un petit accès à l'eau après. Moi, j'ai vu une tête de phoque dans une ouverture de glace. La banquise, c'est des morceaux de... C'est de la glace posée sur l'eau et donc en été, il y a des moments ça se craque, ça s'ouvre, ça se referme. Et donc à des moments, on a des rivières d'eau de mer en fait qui séparent deux morceaux de banquise. Et donc c'est la période un peu propice en été où il y a plus d'algues et de plancton qui se développent dans l'eau. Donc ça attire des petits poissons et après ça attire des phoques. Et après, ça attire des ours polaires qui viennent chasser le phoque. Donc, on a croisé quelques ours. Les premiers qu'on ait vus, C'est une maman avec ses deux petits. Et je me souviens, c'est moi qui suis sortie, c'était en été, et je suis sortie sur le pont. Et puis je vois cette maman avec ses deux petits, et je me souviens avoir crié « Ours !» Mais ma voix, elle a complètement déraillé, quoi. Ça dit « Ah, ours !» Et je crois que j'aurais un peu fait peur. Après, tout le monde est sorti. Et puis bah, les ours, ils sont, les trois ours sont partis, mais c'était chouette, ça. C'est un peu fou, quand même. Je revois des photos où on est sur la banquise avec les ours qui sont en train de toucher les appareils scientifiques. Et avec du recul, je me dis, mais en fait, ils auraient pu nous charger en deux secondes parce que ça va super vite, un ours, quoi. Donc, on avait beau avoir les fusils au cas où pour leur faire peur et tout ça. Mais je pense qu'on était vraiment très, très prudent d'être aussi proche des ours. Pendant le premier hiver, ils ont eu beaucoup plus de doutes et de questionnements parce que le bateau, il avait beau avoir été construit pour ça, ils n'étaient pas sûrs que vraiment il résiste. Ils ont eu plein de coups durs pendant le premier hiver. Nous, on est arrivés pendant l'été. Le bateau, bah, il avait fait ses preuves. On avait appris beaucoup par l'expérience des premiers hivernants. On avait le jour permanent, donc on voyait toujours ce qui se passait. S'il y avait des mouvements de banquise ou autre, on pouvait les observer. Et donc, on n'était pas trop inquiet. Il y avait aussi toutes les images satellites qui pouvaient aider plus, je pense, en été qu'en hiver. Après, c'est sûr que nous, l'hiver, on a entendu aussi, le second hiver, on a entendu les bruits de banquise sur la coque. Et oui, j'imagine que... Le premier hiver, ça a dû faire un peu bizarre d'entendre cette pression très aiguë et amplifiée par la coque en aluminium qui n'était pas très rassurante, quoi. C'est très bruyant et quand tu essayes de dormir, c'est pas vraiment possible.
La banquise attaque une nouvelle fois. Les plaques se cassent et se chevauchent autour de Tara dans des bruits terrifiants. Les grincements stridents et le martèlement intense nous donnent la sensation que la pression de la glace va déchirer la coque de Tara. On se rassure comme on peut en renouvelant notre confiance à l'architecte du bateau.
Ah, c'est comme ça que ça bouge.
Des petites crêtes de compression s'élèvent autour de Tara. Dans ce même fracas sonore, la banquise nous rappelle sa puissance. La mer se réveille souvent sous la glace pour faire jaillir des vagues figées qui peuvent être dangereuses. Nous frôlons la catastrophe.
Les Russes ont été posés à l'aide d'un petit sous-marin, un drapeau russe au pôle Nord, au fond de l'eau. Et sur le retour, ils sont venus nous saluer. Voilà, c'était un peu le responsable politique de l'Arctique russe qui était sur le bateau pour cette mission-là et qui sont venus nous voir au milieu de la nuit, même s'il faisait jour, hein, parce que c'était l'été, mais bon, ils sont arrivés, je crois, il était 3-4 heures du matin, donc c'était très bizarre de voir ces gens arriver de mission, à sortir la vodka, les gâteaux, à faire 3 tampons pour la philatélie, et après, bye bye, ils sont repartis, et voilà. Et je pense que c'est un peu pour nous dire, vous êtes chez nous, vous êtes en Russie un peu là, voilà. On vous le rappelle. À la fin de la dérive, s'est passé ce qu'on appelle la débâcle. Donc la glace qui dérive arrive à un moment dans un espace où elle a plus de place, plus proche de l'océan, de la mer libre. Donc la glace se casse en plein de petits morceaux. Et donc bah, c'est à ce moment-là que Tara s'est fait libérer des glaces. Donc il y avait un petit côté technique parce qu'il fallait remettre les safrans qui avaient été enlevés pour que le bateau soit manœuvrant. Donc c'est deux pièces de plus de 800 kilos, je crois quand même, qui étaient à remettre en place. Puis après, bah, la banquise, même si on n'est pas sorti, a commencé à boucher, à se fracturer. Enfin, déjà, avec la nuit polaire, on pouvait moins s'éloigner du bateau. Mais avec les mouvements de glace autour de nous, ça a commencé à devenir de moins en moins praticable d'aller marcher sur la banquise. Et c'était notre jardin qu'on avait eu pendant plusieurs mois qui commençait à se réduire. On était toujours attaché à un même morceau de glace qui n'était plus très grand. Hein, je ne sais pas, ça devait faire... je sais pas, 60 mètres sur 60. Et donc, on pouvait encore descendre sur ce morceau de glace parce qu'il était encore un peu stable. Et on marchait, en fait, avec nos lampes frontales. On avait un peu l'impression d'avoir une cour de prisonniers parce que, bah, on le voit bien, hein, sur la banquise, il y avait les traces de nos pas. On tournait un peu en rond. Et ça, c'était un peu bizarre quand même. On avait toujours quand même les toilettes sur la banquise. Mais à un moment donné, bah, il n'y avait plus les toilettes. Ils ont été engloutis, ils sont partis loin. On sentait que la fin arrivait, quoi. Bon, bah, c'était éphémère, en fait. Et après, on a eu beaucoup de chance parce que on avait la lune, je crois que c'était presque pleine lune. Donc, quand c'est pleine lune en Arctique, avec la lumière sur la réverbération sur la banquise, c'est comme s'il fait jour presque. C'était calme, il y avait une petite houle, et puis petit à petit, le Tara est sorti des glaces. Et heureusement qu'on n'avait pas de grosses mers, hein, parce qu'on avait quand même énormément de matériel sur le bateau, plus tout le gréement, même si on le tapait régulièrement, qui était plein de glace, de givre, donc ça alourdissait beaucoup le bateau. Et on a navigué comme ça, de façon assez paisible, jusqu'au Spitzberg. Où là, c'était notre premier retour à la terre ferme, et c'était super chouette parce que il y avait un petit peu de monde, mais pas trop, quoi. C'était quelques personnes de l'équipe de Paris, quelques journalistes, et on est arrivé avec, on a allumé les fusées de détresse là, comme pour les retours de course au large. Et dans la nuit, c'était magnifique. Donc on est resté une bonne semaine. Au Spitzberg, on a déposé pas mal de matériel pour rentrer plus léger. On a fait une escale par l'Angleterre et puis après en France. Et heureusement qu'on s'était allégé de matériel au Spitzberg parce que là, on s'était pris une grosse, grosse mer. Je crois qu'il y avait des creux de 9 mètres. C'était impressionnant. Je crois que c'est une des seules fois où j'étais un peu malade sur le bateau. Puis après, on est arrivé. C'était une super fête au retour. On avait nos familles qui avaient été invitées pour l'arrivée, donc de la musique, des amis, de la famille, un bon repas. Et puis voilà, c'était chouette. L'aventure était terminée. Tara, c'est le troisième nom de ce bateau. Il a été construit, il s'appelait Antarctica. Après, le bateau a appartenu à un Néo-Zélandais, il l'a appelé Sealmaster. Et quand Étienne Bourgois et Agnès B ont racheté le bateau, ils l'ont renommé Tara. Et ils ont donné ce nom parce que dans le film Autant d'emporte le vent, c'est l'endroit où on revient, l'endroit où on est bien. C'est Tara. Et c'est vrai que c'est un peu ça, hein, quand on commence à goûter à Tara, on a souvent, la plupart des gens, ont une réelle attache. Et c'est ça qui est génial avec ce bateau, c'est que les gens, ils ont beau passer qu'une semaine, des fois, sur le bateau, en tant que scientifique, en tant que journaliste, et presque tout le monde attrape le virus, quand même, de Tara. Peu importe les équipages, finalement, peu importe les marins qui sont à bord, c'est comme si le bateau, il était autosuffisant à lui-même. D'ailleurs, c'est un peu fou, parce que quand le bateau, il est sorti... de l'eau de temps en temps, et il est mis sur des cales à sec pour l'entretien technique. Et quand on le voit sortir de l'eau par les machines, dans des traveler lifts, on le voit et il n'y a personne à bord, et pourtant on sent comme s'il y avait une humanité à ce bateau, quoi. Il véhicule tellement de choses, il y a tellement de choses qui se sont passées dessus qu'il a sa propre identité. Ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que quand on est sur le bateau, des fois, voilà, on est en mission et puis on arrive dans un port et là, il y a des gens qui montent à bord qu'on n'a jamais vus, mais eux, ils ont aussi embarqué sur le bateau et ils se sentent aussi chez eux. Et c'est ça la force de ce bateau, c'est que tout le monde se sent chez soi quand on y est. Je me sens bien en mer. Ça ne m'angoisse pas du tout. Je me sens bien au milieu de cette étendue de bleu. Je trouve ça magique, toutes les couleurs que ça peut prendre. Sur une même navigation, on peut avoir l'impression d'être sur des mers complètement différentes en fonction de la luminosité, en fonction des conditions météorologiques. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie, mais en fait, il y a plein de vie. Déjà, voilà, il y a tout ce qui est planctonique, hein, mais aussi, des fois, on est au milieu d'une tempête. Et puis là, on sort sur le pont du bateau. Et puis, d'un coup, on voit une baleine à quelques mètres du bateau qui est là, comme ça. C'est magique. C'est magique aussi, je trouve, de pouvoir se déplacer d'un pays à un autre, d'un continent à un autre par la mer. Je trouve que c'est beaucoup plus réel au niveau de l'espace-temps. Quand on prend un avion et qu'en quelques heures, on retraverse la même distance qu'on a fait en bateau et on a mis plus d'un mois en bateau pour faire une traversée, ça, c'est un peu troublant, quoi. Alors qu'en bateau, en mer, on a le temps de réaliser qu'on a quitté un endroit, on attend d'arriver à l'autre endroit, et puis entre les deux, y a ce temps qui est là, qui nous est un petit peu offert pour faire ce qu'on a à faire. Pour moi, c'est très nourrissant d'observer la mer et d'être dans l'instant présent. Je trouve que la navigation permet vraiment d'être présent à ce qu'il y a.
Après la dérive, Marion continue à bord de Tara. Sur ces 10 dernières années, elle passe 3 ans et demi cumulés en mer. Elle sillonne les océans du globe à la découverte du plancton pendant la mission Tara Océan. En Méditerranée, elle participe au triste constat qu'à chaque prélèvement d'eau, on y trouve aussi du plastique. Elle traverse ensuite le Pacifique à la découverte des richesses des récifs coralliens. Marion est maintenant maman d'un petit garçon et continue à naviguer avec son conjoint à travers le monde sur leur voilier en acier de 11 mètres. Retrouvez le portrait de Marion sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le travail d'une femme reporter embarquée sur le Marion Dufresne, navire mythique ravitaillant les îles Kerguelen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.